Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, il est bien rare que nous ayons cette grande fête un dimanche, en gros tous les 7 ans, la fête de l'exaltation de la Sainte Croix. Vous voyez à ma droite, j'ai une relique de notre Seigneur Jésus-Christ, la Sainte Croix, un petit morceau dans ce reliquaire, et quand on expose les reliques, surtout de la Sainte Croix, il convient de génuflecter devant la croix et de l'entourer de lumière, de bougies, pour vénérer la croix de notre Seigneur Jésus-Christ qui, avant sa venue, était un instrument de déréliction, d'opprobre, d'avanie, un supplice vraiment horrible. Notre Seigneur Jésus-Christ va transformer par sa présence sur la croix cet instrument de supplice. Et donc, nous disons bien exaltation de la Sainte Croix. Pour reprendre le terme que Jésus a employé dans l'Évangile aujourd'hui, en Saint Jean au chapitre 7, si je ne me trompe, « Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi. » Et de fait, depuis 2000 ans, cette croix n'est plus un objet de honte, mais au contraire un objet de gloire. Quel mystère! La croix restera bien sûr toujours un grand mystère, mais un mystère de foi, mystère d'adoration, mystère de rédemption. C'est là toute la beauté, toute la beauté, un aspect bien sûr de la beauté de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous manifeste à travers ces grands mystères que nous découvrons, que nous méditons tout au long de l'année liturgique. La richesse incommensurable, comme dira bien saint Paul, la richesse incommensurable de la charité de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Paul, qui résume toute sa vie, l'aspiration de sa vie, dans un seul mot, ou presque, que dit-il aux Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 2, « Je ne sais que Jésus et Jésus crucifié ». Grand mystère. Monseigneur Bossuet va à un protestant converti qui vient de devenir prêtre, écrit une longue lettre. Je vous en lis un petit passage sur justement cette gloire de Jésus crucifié. Quand saint Paul dit-il, quand saint Paul nous dit qu'il ne veut se glorifier que dans la croix de Jésus-Christ, c'est un verset de l'épître Galates, il a aussi compris, sous ce nom, toutes les merveilles du Sauveur, dont la croix est l'abrégé mystérieux. À la vue de tant de merveilles ramassées dans le sacré symbole de la croix, tous les sentiments de piété et de foi se réveillent. On est attendri, on est humilié, et ces sentiments de tendresse et de soumission porte naturellement à en donner toutes les marques à la vue de ce sacré mémorial. On le baise par amour et par tendresse. On se prosterne devant par une humble reconnaissance de la majesté du Sauveur dont la gloire était attachée à sa croix. La gloire de Jésus sur la croix. Les Juifs qui demandent que Jésus-Christ soit crucifié, Pilate qui leur donne Jésus pour être crucifié à la place de Barabbas. Donc les Juifs pensaient bien que Jésus-Christ serait encore plus humilié, plus effondré sur la croix. Et tant de merveilles se sont produites quand Jésus a été élevé de croix, élevé de terre sur la croix, entre terre et ciel, durant 3 heures. Il va prêcher, déjà par sa présence. Présence muette, bien souvent. Présence parlante, car Jésus, sur la croix, va prêcher. Il va parler. Déjà, parler sur une croix, c'est très difficile, parce que le supplicié est asphyxié. Mais il parle. Et que dit-il sur cette croix ? Sinon, des paroles de miséricorde pour les pécheurs. Il va opérer un très grand miracle, le repentir, la conversion, le salut d'un de Laron qui voit ce Jésus crucifié et qui va lui demander à ce Jésus crucifié un royaume, le royaume. Mais comme disent bien les commentateurs, ce n'est pas un royaume de terre, un royaume terrestre. Il va mourir. Donc il croit en quelque chose de plus, de plus important, de plus haut, de divin. Il croit à la vie éternelle. Et il la demande, cette vie éternelle. Quand vous serez dans votre royaume, souvenez-vous de moi. Il croit. Il demande pardon. Pour nous, c'est justice, dit-il à son compagnon d'infortune, l'autre larron, qui lui ne se repentira pas. Pour nous, c'est justice. Mais lui, au milieu de nous deux, n'a rien fait de mal. Il reconnaît l'innocence, la justice, la sainteté, la divinité de cet homme Dieu qui a un royaume, non pas sur terre, mais au ciel. Et Jésus, tout de suite, lui dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi en paradis. » Donc il a les clés de ce royaume. Il est maître, il est roi, le Christ roi. Comme c'est beau. Et sur cette croix, il continue à prêcher. Il expie pour tant de fautes de toute l'humanité. Il prend sur lui nos péchés pour les purifier, pour nous sauver. Il va donner au miracle un signe. Il va donner Saint Jean à sa mère et sa mère à Saint Jean. Quel don puissant ne fait-il pas à l'humanité par Saint Jean présent au pied de la croix. Il nous donne une mère extraordinaire, Notre-Dame, la gloire de la croix. Il aurait pu donner avant Notre-Dame à Saint Jean ou aux Saintes Femmes ou aux apôtres, là pour l'instant présent, mais il a attendu ce moment-là, parce que c'est le moment le plus important de sa vie. C'est son testament. Il donne. Il s'est donné hier soir dans la Sainte Eucharistie et il n'a plus rien. Il s'est donné. Il s'est dépouillé totalement. Que lui reste-t-il? Très peu de choses. Mais c'est essentiel. Ce très peu de choses, entre guillemets, c'est Notre-Dame, c'est sa mère. Il nous la donne. Il s'en dépouille. Quel mystère! Dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, il donne ce qu'il a par lui de plus précieux, Notre-Dame, l'Immaculée. Et c'est depuis ce temps-là, nous dit l'apôtre Saint-Jean qui relate le fait, il était présent, il ne ment pas, il dit vrai, il est témoin oculaire. Depuis ce temps-là, dit Saint-Jean, le disciple l'a pris chez lui. Faisons de même. C'est au pied de la croix que notre Seigneur Jésus-Christ a donné Notre-Dame à Saint-Jean. Et à travers Saint-Jean, encore une fois, nous-mêmes, baptisés, croyants, fidèles de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son jubilé sacerdotal en 79, rappelez-vous les plus anciens, si vous n'y étiez pas, vous l'avez écouté, ce sermon de Mgr Lefebvre. Mgr Lefebvre qui a passé 30 ans en Afrique, dans la brousse, au Gabon, puis ensuite au Sénégal, à Dakar, dira ces choses, dira ces mots étonnants. Il dit ceci, je résume, j'ai vu au cours de ma vie de brousse, à travers ces païens devenus chrétiens, des âmes qui ont désiré la souffrance. Quel mystère! Pourquoi? Dit-il. Il répond, pourquoi? Parce que ces âmes, de païennes qu'elles étaient, sont devenues chrétiennes, fidèles de notre Seigneur Jésus-Christ, et ces âmes ont compris la puissance, la valeur de la souffrance. Non pas pour la souffrance, ça n'a pas de sens, mais la souffrance pour être unie plus intimement à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà le secret de ces âmes qui ont compris ce mystère. Ce mystère ne s'acquiert pas dans les livres. Dans l'intelligence, à force de le vouloir, par la volonté personnelle, humaine, j'entends. Mais cette connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, cette volonté d'adhérer davantage à notre Seigneur Jésus-Christ, comment s'acquiert-elle ? Par la prière. Par la prière. Au pied du crucifix. En baisant le crucifié. La croix est un grand mystère, disait bien Salut de Montfort. Il y a un beau cantique à ce sujet-là. La croix est un mystère. Et peu le comprennent, ce mystère. Mais à ceux qui le comprennent, c'est une source de grande sagesse, de paix intérieure, de développement de l'âme. C'est un mystère de la charité. Mystère de la charité. Eh bien, chers frères, pour donner aussi un autre exemple, après celui de Monseigneur Lefebvre, c'est un exemple plus ancien, au XIXe siècle. Je vous avoue avoir été saisi, et je n'ai pas encore fini cette lecture. Je lis en ce moment la vie d'un aveugle, d'un prêtre qui a été prélat, peut-être vous l'avez deviné, Monseigneur de Ségur. Une âme d'élite, extraordinaire, qui a touché du doigt la croix, mais qui ne s'est pas révolté. Il a des fragilités dans sa vue, il perd progressivement l'œil gauche, on lui dit « allez vous reposer », il part à la montagne, en Savoie, et ce bon air des montagnes l'ayant reposé, il retrouve grosso modo l'œil gauche, et puis il va le perdre totalement. Totalement. Et il sait que, malgré tout ce qu'on peut lui dire, de ci, de là, des médecins, des chirurgiens, des ophtalmos, etc., il sait qu'il perdra son œil droit également. Et pourtant, après la perte de l'œil gauche, et même de l'œil droit, il se fera opérer par un des plus grands chirurgiens de l'époque à Paris. Et après l'opération, qui était le samedi saint, de l'année 1858, je crois, 1558, il dira au chirurgien qui espérait bien que Monseigneur de Ségur verrait quelque chose, il lui dit « Mais docteur, je crois tout à fait en vos capacités, mais je suis encore plus aveugle qu'avant l'opération. » Voilà. Bon, et le médecin est parti sur la pointe des pieds et il n'est plus revenu du tout. Il était bien humilié de cette opération vraiment raté. Mais ce n'est pas ce cas qui est important dans la vie de Monseigneur de Ségur, ce sont ses dispositions. Alors, je voudrais vous lire une lettre après la perte de son premier œil. Donc, il peut encore écrire lui-même. Après ça, il fera écrire, il dictera ses lettres. Une vie prodigieuse, extraordinaire, une activité débordante. Donc, il était protonotaire apostolique auprès de Pie IX, donc à la Rote, c'est-à-dire diplomate, entre Napoléon III et Pie IX, pour tout ce qui était diplomatie française et vaticane. Et puis, il aurait dû être évêque, voire cardinal. Il ne le sera pas, bien sûr, parce que pour être évêque, il faut voir clair, naturellement parlant. Surnaturellement aussi, bien sûr, mais lui, c'était surnaturel, il voyait bien, mais plus naturellement. Donc, il ne pouvait pas être évêque. Mais il était donc monseigneur, c'est une distinction honorifique. Alors, il écrit, après avoir perdu son premier œil, « Je ne sais, cher ami, si je suis destiné à vous revoir. Selon toutes les apparences, vous êtes, vous, destiné à me voir, revoir, parce que vous avez des yeux. Vous savez que par le passé, j'en avais, et que je m'en servais pour faire des caricatures du temps de nos expéditions dans les Pyrénées. Monseigneur de Ségur était excellent peintre, dessinateur. Il a des grands tableaux à l'aquarelle, des gouaches, etc., crayons au pinceau, au crayon également, de très beaux tableaux. Voici bientôt un mois que j'ai perdu un œil. Et celui qui me reste est un si pauvre sire qu'il ne vaut pas la peine qu'on en parle. Je crois que ce qui m'arrive est de l'espèce des gouttes sereines. Cela ne veut pas dire que je suis un serein. Avertissez-en vos enfants. » Donc il y a un jeu de mots. La sérénité et le serein, l'oiseau. Cela veut dire seulement que le nerf optique tombe en paralysie ou partielle ou totale. Jusqu'à présent, cette paralysie de l'œil gauche n'est pas complète et je distingue encore les objets comme à travers de l'eau. Le médecin, en qui j'ai autant de confiance qu'on peut avoir en un médecin, espère encore que ce n'est pas définitif. Pour moi, je ne l'espère ni ne l'espère pas. Car au fond, mon bon ami, ça m'est parfaitement égal. Voilà le fond de sa pensée. Et par rapport à la croix, voyez-vous comment il a réagi. J'ai le bonheur d'être chrétien. Je sais que je ne suis en ce monde que pour y passer quelques moments. Et j'ai depuis longtemps jeté toutes mes espérances dans la vie éternelle. S'il fallait choisir, je préférerais la souffrance et j'espère de la bonté de Dieu que, si c'est une visite de sa justice et de sa miséricorde, comme je le croirai plus tôt, je saurai apprécier la grandeur d'une pareille grâce et je resterai fidèlement avec la Sainte Vierge au pied de la croix du Maître des souffrances. C'est par le Vendredi Saint qu'on arrive au jour de Pâques. Je vois venir très volontiers le Vendredi Saint. Voilà une attitude profondément chrétienne, sacerdotale de surcroît, mais d'abord chrétienne. Il ira voir M. Dupont, le saint homme de Tours, qui avait chez lui une belle image de la Sainte Face. Il n'y aura pas de miracle. Alors que le matin même, où l'ancien homme de Ségur était passé chez M. Dupont à Tours, une dame avait retrouvé la faculté de parler. Elle était devenue muette. Elle a parlé, et pour de bon, ce n'était pas transitoire. Mais lui, il ne verra pas. Sauf un instant, il verra la Sainte Face. Il était là entièrement aveugle. C'était l'instant d'un éclair. Et il décrira plus tard la Sainte Face. C'était exactement cela. Il l'avait jamais vu. Il va la décrire parfaitement. J'ai vu ceci, la couronne d'épines, notre Seigneur Jésus-Christ ensanglanté, comme vous connaissez le tableau à la Sainte Face. Eh bien, il ira ensuite voir le curé d'Ars. Le curé d'Ars qui faisait quantité de miracles. Et pour le pensionnaire de Ségur, il n'y aura pas de miracle. Mais quand le curé d'Ars verra l'ancien de Ségur partir, il dira à tous ceux qui l'entourent, « J'ai vu là un saint. » C'est un saint qui parle. Pie IX aussi, quand il parlait de l'ancien de Ségur, disait, « C'est un saint prêtre, un saint prélat. » Eh bien, chers frères, j'ai pris un seul exemple, l'ancien de Ségur, qui a vécu 33 ans dans la cécité complète. Une activité prodigieuse. Il a fait des conférences, il a écrit des livres, il a fait écrire des livres, il dictait des livres. Il a donné beaucoup de conférences partout, des confessions. Beaucoup venaient à lui au confessionnal parce qu'il disait « Moi, je ne vois rien, je ne sais pas qui vient. Venez, sans scrupule, je ne sais pas qui vous êtes. Je peux vous entendre, mais n'ayez pas peur, venez à moi. » Je ne sais pas qui vous êtes. Alors, des grands pécheurs, des grandes pécheresses, venez à lui, l'anonymat complet. C'est merveilleux. Bon, peut-être ne demandez pas ça à vos prêtres, au bon Dieu, qu'ils soient eux-mêmes aveugles, parce que ça peut être un peu compliqué. Il fallait que Mgr de Ségur ait deux personnes, un prêtre et un monsieur, totalement à son service, de A à Z, du matin au soir et du soir au matin. Évidemment, il ne pouvait pas se déplacer. Néanmoins, il a anticipé sur sa cécité totale. Alors que ses yeux disparaissaient, son ouïe s'est développée et aussi sa mémoire prodigieuse. Donc il avait peu de temps pour apprendre la messe. Il a appris la messe par cœur. Et Pie IX lui a dit, comme on fait aux aveugles en général, « Eh bien, vous ne direz que la messe de la Sainte Vierge ». une messe assez facile, des textes courts. Mais Monseigneur de Ségur a appris beaucoup de messes. Des textes, là, non pas seulement le propre de la messe, le commun, le canon, mais aussi les textes, épîtres, évangiles, etc. Il a tout appris par cœur. Donc il y avait une dizaine de messes qu'il savait par cœur. Et il les récitait selon les fêtes. Enfin, une activité prodigieuse. Mais la croix l'a touché. La croix l'a touché. Elle était d'une grande sérénité. Une grande sérénité. Des gens le plaignaient. Sa pauvre mère, le soir où il devint aveugle, sa sœur lui donne à manger, lui coupe la viande. Et sa mère se rend compte à ce moment-là que il est aveugle, mon fils. Gaston est aveugle. À la table de la famille, il n'y avait qu'un seul homme qui ne pleurait pas, c'était lui. Il était serein. Dans la paix, la croix l'avait touché, mais la grâce encore plus, la grâce de Jésus-Christ. Quel mystère, quel grand mystère, voyez-vous. Notre Seigneur Jésus-Christ permet que des âmes d'élite, et c'en est une, dans le Ségur, des âmes d'élite nous montrent la voie royale de la croix. Il n'a pas été écrasé, au contraire. Grâce à cette infirmité, il le dit lui-même, vraiment lourde, 33 ans aveugle. Il meurt à 61 ans. Grâce à cette infirmité, il a converti des quantités d'âmes. Ce que sans doute il n'aurait pas fait autrement. Et il disait, on lui disait, mais allez à Lourdes, il est allé à Lourdes aussi. Il a bu de l'eau de Lourdes. Et il lui disait, mais il y a beaucoup de miraculés à Lourdes. Demandez, Seigneur, faites que je voie. On dit cela à Lourdes. Et il ne disait pas ça. Il disait à Dieu, fiat voluntas tua, que votre volonté soit faite. Et on lui disait, mais c'est pour ça que ça ne marche pas. Ne dites pas que votre volonté soit faite. Ils lui disent, mais que je voie. Et si ce n'est pas la volonté du bon Dieu, répondit-il, que votre volonté soit faite. Et je termine par ce petit trait de sa vie aussi. Il disait, si je revoyais, assurément, parce que je le sais, je serais évêque. Alors j'aurais un diocèse. Et je ne pourrais pas aller plus loin que mon diocèse. Donc le bien que je puis faire, dont il se rendit bien compte, il n'était pas naïf, eh bien il serait cantonné à un diocèse. Mais là je suis prêtre, avec des pouvoirs d'évêque, parce que, non pas qu'il pouvait consacrer des prêtres, etc., mais le pape Pie IX lui avait donné des pouvoirs d'évêque, et même bénir comme le pape fait, c'était extraordinaire. D'ailleurs il y aura l'évêque de Paris, j'ai oublié le nom, pourtant je vais le lire ce soir, mais peu importe, qui était un peu jaloux de cette prérogative que le pape Pie IX lui avait donnée de bénir le peuple comme le pape fait, bénir son papal par un simple prêtre. Tout est atypique dans cette vie du Monseigneur de Ségur. Et alors, momentanément, l'évêque l'a interdit. C'est-à-dire, c'est grave, l'interdiction, il ne pouvait plus confesser. Et ça a duré 3 jours. Donc le cardinal Monseigneur de Ségur a écrit à Monseigneur Pie, cardinal Pie à Poitiers, qui a conseillé de tourner la lettre pour faire des excuses à l'évêque qui a, au bout de 3 jours, repermis à Monseigneur de Ségur de confesser. Mais il disait ceci, voilà, si j'avais un seul diocèse, je serais cantonné. Là, je suis prêtre et je peux aller pratiquement partout parce qu'on m'appelle. Faire des retraites, des conférences, un ministère. Eh bien là, grâce à cette cécité, mon ministère est développé de façon extraordinaire. C'est une croix, mais c'est une grande grâce. Eh bien, chers frères, prions le bon Dieu, non pas de nous donner forcément la croix qu'a eu Monseigneur de Ségur, ce n'est pas le propos, mais en tout cas d'avoir l'esprit de ces grands hommes, de ces grandes femmes également. J'aurais pu prendre des histoires de femmes, de religieuses dans le monde, et aussi des femmes dans le monde. Eh bien non, peu importe, l'exemple est suffisant, me semble-t-il. La croix de bon Dieu qui rentre dans nos âmes est un grand mystère, sans doute, mais c'est l'occasion de grandir dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ crucifié et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et aussi notre salut. Parce que tout passe par la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Faisons, en terminant, un beau signe de croix pour nous rappeler le mystère qui nous a rachetés, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.